Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce café littéraire consacré à Jacqueline Carré. Vous savez bien qu'on apprécie particulièrement aux Imaginales de faire ces rencontres, y compris qui sont ensuite reprises sur le net, et on remercie ceux d'ailleurs qui nous donnent cette possibilité, de rencontrer donc les auteurs invités, qu'il s'agisse des auteurs français ou qu'il s'agisse des auteurs étrangers, à qui nous consacrons systématiquement une rencontre spécifique, sans oublier les autres rencontres. Alors Jacqueline Carré, pourquoi est-elle ici? Et pourquoi moi je m'éloigne juste à cause du traducteur? C'est plus facile de ne pas avoir le son du traducteur dans l'oreille, j'avais oublié. C'est pour ça donc, pourquoi Jacqueline Carré là? Tout simplement parce que quand j'ai ouvert le premier roman de sa première trilogie, je l'ai lu en 3 jours, quand vous verrez le volume, ça montre à quel point j'étais passionné. Je lisais sans du tout avoir une intention particulière, un livre qui m'avait semblé intéressant, dans une maison qui publie de la fantaisie, parfois que j'aime. Et dès les premières pages, j'étais fasciné. Dès les premiers chapitres, j'étais totalement prise par l'histoire. Et quand j'ai tourné la dernière page du premier volume, je me suis dit, où est-ce que je vais trouver le mail de Jacqueline Carré? Parce que bien sûr, elle sera aux Imaginales prochaines. C'est comme ça que ça se passe aux Imaginales. C'est cette magie, cette passion. C'est nos coups de cœur littéraires. C'est comme ça que se font les invitations. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est ça le travail de programmation. Et maintenant, on va bien sûr parler pendant 50 minutes de Jacqueline Carré, de son travail. Et avant d'en venir au vif du sujet, je voulais quand même deux remerciements tout de suite préalables. C'est une façon de les remercier aussi pour tout le travail accompli. Lionel Davoust, le traducteur, traduction simultanée, quasi pas de notes, facilité, il va rougir, ça n'a aucune importance. Sans les traducteurs, Lionel et les autres, on ne pourrait pas avoir des invités étrangers et vous les mettre à disposition, vous leur donner l'occasion d'avoir une écoute facile, en direct, proche du texte. Et ça, c'est la même chose pour nous que le travail que fait par exemple Frédéric Lebert, qu'on salue aussi dans la traduction, parce que je tenais à dire aussi que la qualité du texte de Jacqueline est merveilleusement rendue en français, et c'est cette qualité de l'écriture aussi qui m'a frappé avec toute la passion de l'aventure, des rebondissements, de l'incroyable originalité de l'univers qu'elle a créé. Et puis Sylvain Demierre, qui est notre lecteur depuis maintenant 2009, qui peut déjà lui dire sera notre lecteur 2011, qui reçoit les livres dans son petit coin de Suisse, les lit tranquillement et on se concerte. Je lui suggère des passages et très souvent il les choisit lui-même et on en tombe d'accord. Première question tout simplement sur qu'est-ce qui fait un écrivain, Jacqueline Carré. Ça vous est venu comment? L'envie et l'idée de raconter des histoires et de faire de ce qui était une passion, j'imagine, la lecture, un métier.
Teachers in the audience don't like it when I answer this question honestly.
S'il y a des professeurs dans le public en général, les professeurs n'aiment pas la réponse honnête que je fais à cette question.
But I began writing novels because I was very, very bored in school.
Mais j'ai commencé à écrire des romans parce que je m'ennuyais énormément à l'école.
And I started one in the back of my notebook. And it looked like I was taking notes for class.
J'en ai commencé un à la fin de mon cahier et j'avais l'air de prendre des notes en classe.
I think I was 15 or 16 years old.
Je devais avoir 15 ou 16 ans.
And I don't really count that as part of my writing experience because it was terrible.
Mais je ne compte pas ça comme faisant partie de mon expérience d'auteur parce que c'était absolument très mauvais.
It was part fantasy, part soap opera. It went on for many, many generations. Many, many notebooks.
C'était à moitié de la fantasy, à moitié un peu du soap opera. Il y avait énormément de générations. Ça a duré des cahiers et des cahiers.
And I actually kept writing through high school, through college, without realizing it was a passion. It was just an addiction, really.
Et j'ai continué à écrire au lycée, puis à l'université, sans vraiment m'apercevoir que c'était une passion, en fait, pour être plus exact, c'était plus une addiction.
And then I graduated with a degree in literature and a degree in psychology, and I didn't know what I wanted to do with my life, whether I wanted to go on and study.
Et j'ai eu un diplôme donc en littérature et en psychologie, et je savais pas exactement ce que j'allais faire de ma vie à ce moment-là.
And so a friend and I found a work exchange program, and we got work permits for Great Britain for 6 months, and just went over, lived in London, and got jobs working in a bookstore.
Et donc avec un ami, on a eu on a décroché des places dans un programme d'échange, donc on est parti, on a eu des permis de travail, et on est parti en Angleterre tous les deux pour aller travailler dans une librairie.
And it was during that period of time that I realized this addiction, and I'm still writing all along in the notebooks, was really a passion and what I wanted to do for a living.
Et pendant tout ce temps-là, je continuais à écrire dans mes cahiers, et c'est là vraiment que je me suis aperçu que cette addiction était une passion et que ça pouvait être quelque chose dont je pourrais, avec lequel je pourrais gagner ma vie.
And that was the beginning of the struggling writer years.
Et ce fut le début de mes années de lutte en tant que jeune auteur.
On ne va pas aborder cette question parce qu'on va avant tout parler des livres. Donc ma deuxième question sera pourquoi le choix de la fantasy tout simplement ? Pourquoi vous auriez pu écrire des tas de choses ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter vers ce type de littérature ?
In part because I love reading fantasy, and but there's not a lot that sort of rings all the right notes that I want to feel when I read.
That fantasy is the only one that.
There's very little in fantasy.
Tout d'abord parce que j'aime en lire, mais aussi parce qu'en fantasy il n'y avait pas exactement la fantasy qui, on va dire, faisait sonner juste toutes les cloches auxquelles j'espérais. Il n'y avait pas tous les éléments dont moi j'avais besoin en tant que lectrice.
And I write historical fantasy because I do love history and playing with it. I love doing the research, but I always hated footnotes.
Et j'adore la fantasy historique parce que j'adore cette époque et j'adore aussi les recherches qui vont avec, mais je déteste les notes de bas de page.
I like to be able to take that information and use my imagination and set them both loose together.
Et j'aime pouvoir prendre ces éléments, puis utiliser mon imagination et libérer les deux sur la page.
And I wanted to write fantasy that was had an adult emotional sensibility.
Et je voulais écrire de la fantasy qui est un élément de sensibilité clairement adulte.
And that's why.
Et c'est pourquoi.
De la fantasy pour adultes, de la fantasy, on a dit au début, de la fantasy pour adultes, de la fantasy historique, et en fait, en quelque sorte, ce monde de Cuchiel que vous nous décrivez, sur ces trois tomes qui sont trois romans indépendants, mais néanmoins une trilogie, même s'il y a des rebondissements qui permettent de passer de volume en volume. C'est en fait une sorte, je crois que vous l'aviez dit à peu près ainsi, mais mieux que je ne vais le dire, c'est une sorte de roman historique, enfin d'histoire qui aurait pu exister mais n'a pas existé. Ce qui m'a frappé, c'est la cohérence du monde. Vous avez imaginé un espace. Vous avez imaginé une structure sociale. Vous avez imaginé une structure de pouvoir. Vous avez imaginé des groupes sociaux différents. Vous avez imaginé évidemment des conflits, mais ça c'est plus classique dans la fantasy. Et vous avez aussi imaginé un système religieux parfaitement cohérent, parfaitement original, qui renvoie à la religion chrétienne, bien évidemment, en tout cas la tradition judéo-chrétienne, mais qui la modifie, la restructure et la recrée à votre façon, et d'une certaine façon, le mot d'ordre des personnages, en tout cas de l'héroïne principale du roman, Phèdre, aime comme tu l'entends, est évidemment une résonance particulière pour nous qui sommes majoritairement de tradition judéo-chrétienne dans un pays comme la France et aussi aux États-Unis. Tu aimeras les autres comme toi-même. Pourquoi cette extraordinaire cohérence pour ensuite imaginer des histoires ?
So, C'est une longue question. Part of my philosophy of writing is that if you build strong foundations, you will never find yourself at a loss.
Une part de ma philosophie dans l'écriture consiste à dire que si l'on construit des fondations solides, on ne sera jamais perdu.
And the theology, the religious structure, is very much part of the foundation, as much as the social hierarchy or anything else.
Et la théologie donc de ce monde fait véritablement partie des fondations, de la même façon que les structures sociales et tout le reste.
But I was also interested in much of fantasy, religion plays a role.
Mais il y a aussi un autre élément qui m'intéressait. Dans, globalement, dans une grande part de la fantasy, la religion joue un rôle.
But faith does not.
Mais pas la foi.
And you'll have these religions and prophecies and gods with powers that are essentially just bigger, more powerful beings.
On a ces religions, ces prophéties, ces dieux, mais qui en fait ne sont jamais que des êtres beaucoup plus puissants.
There's never a sense of religion as a living faith.
On n'a jamais cette impression de la religion vécue comme une foi vivante.
And to me that felt like another element that was missing from a lot of fantasy. And I wanted to explore in this the idea of a god whose sole divine attribute is love.
Et ça faisait partie des éléments qui pour moi manquaient dans la fantaisie. Et donc j'avais envie d'étudier, d'explorer l'idée d'un dieu dont le seul attribut divin, c'est l'amour.
And how that would manifest on Earth and within faith, and how it would affect change in the world.
Et comment ça se manifesterait sur Terre, comment cette foi se concrétiserait et comment elle pourrait modeler le monde.
Je vais passer très vite sur votre extraordinaire professionnalisme, c'est-à-dire la façon dont vous êtes capable d'inventer un complot. Vous êtes capable d'inventer des pays et des ordres qui menacent l'Empire, ou du moins cette terre d'ange, qui quelque part ressemble un peu à notre pays, tel qu'il aurait pu être, la France. On parlera brièvement de votre amour de la France et de l'Europe, et de votre intérêt pour d'autres pays que le vôtre, une ouverture. Vous avez évidemment mis en scène des rebondissements, vous avez mis en scène des personnages qui se construisent, qui sont aussi à la recherche de leur propre identité, de l'amour, du sens qu'ils vont donner à leur vie. Mais ça, je ne vais pas en parler, je ne vais pas vous demander d'en parler, vos lecteurs le découvriront dans vos livres. Ce que je voudrais avant tout vous demander, ou insister, ce sont les points qui sont votre originalité. Tout ce que les autres font, des histoires, des rebondissements, vous le faites à la perfection. Mais vous apportez à la fantaisie une voie nouvelle. Vous apportez à la fantaisie, je crois, un statut adulte. Et y compris la place que vous accordez, même si elle n'est pas centrale, contrairement à ce que certaines critiques rapides disent, à la sexualité, est relativement nouvelle en fantasy. Et mettre le personnage de Phèdre au centre, mettre un personnage qui vend, non pas son corps comme on le dit trop souvent, mais un moment de plaisir, ce qui n'est pas du tout la même chose, cette expression est aussi un mépris des femmes qui travaillent avec leur corps. Elles ne le vendent pas, elles le louent pour un court moment, et encore une partie. Pourquoi vous avez fait ce choix-là d'une héroïne qui exerce dans nos sociétés judéo-chrétiennes un des métiers les plus méprisés?
I think there is a tradition in literature, the sacred prostitute is something of a trope.
Je crois qu'il y a une tradition en littérature, la prostituée sacrée, c'est un petit peu un trope, un thème.
As well as the courtesan spy, the Mata Hari.
Tout comme l'est la courtisane espionne, la Mata Hari.
But it's always been utilized in either a marginalized way or a sort of exploitative manner.
Mais ça a toujours été utilisé un peu d'une façon marginalisée ou un petit peu ces personnages étaient utilisés un peu considérés comme étant exploités.
And I wanted to take all of those elements as well as I've said the heroine as victim or the female protagonist as victim that is so predominant in a lot of popular culture.
Donc je voulais prendre tous ces éléments, ainsi, comme je l'ai dit, l'image de l'héroïne vue comme une victime, du personnage féminin vu comme une victime, qu'on voit si souvent dans la littérature populaire.
And the subtext of eroticized violence.
Et le message sous-jacent, qui est un petit peu cette violence éroticisée.
And I wanted to take all of those elements and turn them inside out, put them in the foreground, look at them in a completely different new way.
Et donc je voulais prendre tous ces éléments et un petit peu les faire basculer, les prendre à contre-pied, les amener au premier plan et les utiliser d'une façon qui soit différente.
But I also must say I'm stating all of this as though it built up to my choice and to the creation of Phaedra as heroine, and it was really more the other way around.
Mais je dis tout ça comme si tout cela avait contribué à construire ma vision de Phaedra comme héroïne, mais en réalité c'est plutôt l'inverse qui s'est passé.
Yeah, I've described her character as a gift of the muses, and from the first conception, she was what she was, unapologetically.
Et je décrirais plutôt ce personnage comme un cadeau des muses finalement, parce que dès le début, dès la première seconde, elle était ce qu'elle était, et elle n'avait pas à s'excuser de ce qu'elle était.
So all the rationale came afterward as I thought of this frighteningly unique idea: can it be done? Should it be done? Can I do it? And why?
Et en fait, toute la rationalisation est venue après coup. Quand j'ai vu cette idée un peu unique et un petit peu effrayante, c'est là où je me suis posé les questions: est-ce que je dois le faire? Comment je dois le faire? Est-ce que ça vaut la peine d'être fait? Etc.
And I've spoken of the beginning of the struggling writer years, of which there were a good decade.
Je parlais au début de mes années difficiles en tant que jeune auteur. Il y a eu au moins une petite décennie.
And Kushiel's Dart, en anglais, or Kushiel Lamarck, was my breakthrough book.
Et Lamarck, donc le premier volume, a été le livre qui m'a permis de percer.
And that came about because I chose to make a frightening creative leap, to face a challenge I was not sure I could handle.
Et c'était effrayant pour moi parce que je m'étais un peu fixé un défi dont je n'étais pas sûr que je serais capable, que je n'étais pas sûr d'être capable d'affronter du point de vue créatif.
And you, you spoke of the language and the voice. My natural literary voice is baroque.
Vous avez parlé de la langue, de la voix. Naturellement, ma voix, c'est celle du baroque.
But particularly in the United States, there's a no, you know, it must be simple, clean. Ever since Ernest Hemingway, bless him and damn him.
Et aux États-Unis, on m'a dit non, surtout pas. Il faut que votre style soit simple, qu'il soit net. Et ce, depuis Ernest Hemingway, qu'il soit béni et damné à la fois.
And so for the 10 years, I tried to make myself write simple, clean, and spare prose.
Donc pendant 10 ans, je me suis efforcé d'écrire une prose qui soit simple, nette, économe, concise.
And I knew that would not be right for the Kushiel books. So when I began, it was the hell with it. We're breaking the dam. We're letting it loose.
Et ensuite, je me suis dit que ça n'irait pas du tout pour la trilogie de Kushiel et pour ce style-là. Alors, quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis dit au diable ces recommandations. On brise le barrage et on se laisse aller.
Yeah. And I think that's something I do tell young writers: don't write against your strengths, even if convention tells you to.
Et c'est ce que je dis fréquemment aux jeunes auteurs: n'écrivez pas à l'encontre de vos forces, de vos atouts, même si les conventions vous disent de le faire.
La liberté, on y reviendra, c'est toujours un élément important dans la pensée et dans l'écriture de Jacqueline Carré. Un texte, c'est aussi une voix. Le plus simple, c'est d'entendre cette voix. Sylvain Demierre.
Je me souviens de l'instant où j'ai découvert la douleur. Ma vie au sein de la maison de Céréus avait rapidement trouvé son rythme, immuable et éternel. Il y avait plusieurs autres enfants avec moi, 4 pour être exact. Je partageais une chambre avec 2 filles graciles et aux manières délicates qui parlaient d'une petite voix. Âgée de 7 ans, l'aînée, prénommée Juliette, avait des cheveux d'or aux reflets cuivrés. On comptait bien qu'un jour la maison du Dahlia fit l'acquisition de sa marque. Avec sa réserve et son air solennel, Juliette était faite pour y servir. Hélène, la cadette, irait à la maison du Céréus. La chose ne faisait aucun doute. Elle avait le teint diaphane et cristallin, une peau si transparente que ses paupières paraissaient comme veinées d'azur lorsqu'elle fermait les yeux et que ses cils venaient mourir sur l'ivoire de ses joues. Je n'avais rien en commun avec elle, ni avec les autres. Le bel Étienne, demi-frère d'Hélène, avec ses boucles blondes d'Angelot, ou même Calantia, malgré son rire joyeux, eux étaient des êtres à l'existence bien définie, à la richesse connue et à l'avenir assuré, nés d'unions dûment souscrites et destinées à une maison, celle-ci ou bien une autre. Entendons-nous bien, je n'éprouvais aucune amertume. Les années passèrent, plaisantes et sans souci en leur compagnie. Les adeptes étaient aimables. Chacun à leur tour, ils nous inculquaient les connaissances essentielles, la poésie, le chant, le jeu, l'art d'offrir un verre de vin, de préparer une chambre ou de servir à table en se comportant comme une petite chose délicieuse. J'étais autorisé à suivre ces enseignements, à condition bien sûr que je me tinsse toujours les yeux baissés. J'étais ce que j'étais, le fruit non désiré des amours d'une traînée. Mes mots peuvent paraître durs, mais n'oubliez pas ce que j'ai appris au sein de la maison du Céréus. Elua le béni ne m'en aimait pas moins. Après tout, n'était-il pas lui-même le bâtard non désiré d'une traînée?
Personnage de Phèdre, enfant, et la petite chose délicieuse, quand on va découvrir Phèdre, on voit déjà aussi peut-être un trait qu'on n'a pas assez souligné, parce qu'il est toujours très subtil, c'est l'humour aussi de Jacqueline Carré. Parce qu'évidemment, c'est une antiphrase. Elle peut être délicieuse, mais c'est aussi une femme extrêmement énergique. Et ce qui me frappe, et c'est la question que je voudrais poser à Jacqueline Carré, je pense que ça s'est construit très vite dans son livre, c'est ce balancement rare et surprenant entre un personnage qui est une soumise, qui aime la douleur, on va commencer à le découvrir, et un personnage qui est aussi un personnage fort. C'est un paradoxe, on est presque dans l'oxymoron. Pourquoi ce choix, à part évidemment l'intérêt pour la curiosité du lecteur et pour aussi, j'imagine, les rebondissements de l'action. Mais pourquoi avoir construit un personnage féminin qui a les deux éléments, c'est-à-dire un personnage qui apparemment est soumis et qui pourtant va se révéler l'un des personnages les plus forts de cette société?
I do have to go back to the point that everything I'm saying is a rationalization after the fact.
Il faut que je revienne à ce que je disais tout à l'heure, qui est que tout ce que je rationalise maintenant, en fait, ça m'est venu après coup.
But it was exactly that contrast that intrigued me so much.
Mais c'était justement exactement ce contraste qui m'intriguait tellement.
That a character who is seemingly submissive and yielding.
Un personnage qui est en apparence effectivement soumis, qui cède.
Is in fact the most willful character in the entire book.
Et qui est en fait le personnage probablement le plus volontaire de tout le livre.
And in doing a lot of research into I don't know what the BDSM sadomasochism.
Et en faisant tout un tas de recherches sur le milieu BDSM, sur le sadomasochisme.
And the community, the philosophies, the tenets. There are certain things I learned that I definitely wanted to incorporate the respect for consensuality is so much more predominant in that community.
Et donc j'ai étudié la communauté, la philosophie, les principes, et j'ai appris un tas de choses que j'avais absolument envie d'incorporer dans le récit. Notamment, il y a tout un aspect extrêmement prononcé, peut-être plus que dans nos sociétés, à l'extérieur du milieu, c'est l'aspect du consensus.
Which is why I built it into the very theology, that it's a sacred tenet.
Et c'est pourquoi j'ai intégré ça dans la théologie même de l'univers, puisque c'est devenu un principe sacré.
But there's also a phrase that very much applies to the dualistic nature of Phaedra and the reconciling seeming, I am completely blanking on the word I want, contradictions, the reconciling of apparent contradictions.
Mais il y a une autre phrase en particulier qui s'applique particulièrement à la dualité de Phèdre et qui permet justement de réconcilier ces deux principes.
And I would say that in the great dramatic arc of the trilogy, throughout it, Phèdre is topping from the bottom.
Mais donc au cours de tout l'arc scénaristique de la trilogie, on pourrait dire que Phèdre bascule à partir de la base.
That was really funny for the few people.
Justement, on commence à lire. Il y a peu de temps, on en parlait dans d'autres débats du festival. Une des preuves que la fantasy devient vraiment une littérature adulte, qui a une histoire, qui a maintenant ses références, qui est capable de traiter l'ensemble des sujets, c'est que la sexualité, qui était complètement bannie, absente, même pas bannie, elle était absente des histoires de fantasy, depuis 10-20 ans, peut-être une vingtaine d'années aux États-Unis, une dizaine d'années en France, entre de façon claire et naturelle dans les romans. Y compris, des personnages peuvent être hétérosexuels, bisexuels, homosexuels, gays, lesbiennes. Je dirais en gros, par peut-être certaines personnes encore retardataires, les choses ne posent pas de problème majeur. Ça semble, y compris dans la fantasy française, relativement naturel depuis quelques années. Ça a été très vite en fait. Mais c'est quand même, sauf peut-être avec quelques... On en parlait lors des lectures, auteurs gays comme Francis Berthelot. Je crois que c'est la première fois que je vois une héroïne féminine sadomasochiste dans un roman de fantasy. Pourquoi quand même ce choix assumé? Vous pouvez bien sûr me dire que d'une certaine façon, le personnage s'est construit, mais on peut quand même retravailler un personnage. Est-ce que vous y avez vu, mais là je me trompe peut-être, une richesse de scénario par cette opposition entre l'image qu'on a quand on n'a en effet pas travaillé, pas fait de recherche ou pas rencontré des amis qui vous révèlent au bout d'un moment qui jouent à ça, parce que ça, on rencontre des gens très divers hein, dans la vie. Est-ce que quand on commence à avoir une connaissance soit livresque, soit personnelle de cette communauté particulière, que vous découvrez un décalage complet entre l'idée reçue qu'on peut avoir des pauvres filles qui se font frapper par des garçons, souvent cette vision que ont les gens sur le sadomasochisme, et non pas une forme de jeu ritualisé ou la liberté fondamentale. C'est ça la question que je voudrais poser. Est-ce que ce rapport d'opposition n'est pas en fait pour le lecteur qui ne connaît pas, et qu'il va découvrir avec Phèdre que en fait la soumission est une voie pour le personnage de la liberté? Elle qui sera tout sauf soumise dans sa vie sociale.
Yes, absolutely.
Oui, absolument.
One of the things that makes drawing on those elements so rich in terms of dramatic tension and psychology.
Ce qui rend ces éléments aussi riches en termes de tension dramatique et de psychologie,
is that these relationships, power is so much at the center of them.
C'est que dans toutes ces relations, ce qui se trouve finalement très au centre, c'est le pouvoir.
And you know, Phèdre can submit in all sorts of apparent ways.
Et Phèdre peut se soumettre de façon apparente, de tout un tas de manières.
But she has her last bastion, her signal, her safe word.
Mais elle a son dernier bastion, son signal, son mot de sécurité.
And as long as she has not spoken that, the power still lies with her.
Et tant qu'elle ne l'aura pas dit, le pouvoir lui appartiendra toujours.
And I think those sorts of relationships and dynamics are very interesting and exciting to explore.
Et je pense que ces genres de relations, de dynamiques sont extrêmement riches et intéressantes à explorer.
And also by casting them in a light that is not only normal, but within the context of the realm of Terre d'Ange, sanctified to an extent.
Et de de présenter ces relations sous un éclairage qui ne soit pas seulement considéré comme normal, mais dans le contexte de Terre d'Ange, qui soit carrément devenu sacré.
It has the possibility of opening up readers to either simply viewing this in a different light, or, as I hear from a lot of readers, giving themselves a completely different reflection of their own desires that they thought were fearful or unhealthy, and going, oh, well, maybe it's not.
Et ça donne également la possibilité aux lecteurs de s'ouvrir à cette façon de voir, non pas seulement de les voir sous un éclairage différent, mais comme beaucoup de lecteurs me l'ont dit, de changer un peu de cadre de référence concernant leurs désirs, et également de pouvoir voir des désirs qu'ils avaient, qu'ils pouvaient considérer comme étant malsains, ou qu'ils pouvaient leur faire peur, de les considérer finalement sous un autre éclairage, et se dire, bon, finalement, ça va.
I do receive a lot of email that says, I may be sharing too much about my life, but...
Je reçois beaucoup de électroniques qui commencent par la phrase suivante. Je vous partage peut-être un peu trop de choses concernant ma vie, mais...
Ce qui prouve la puissance des livres et de la littérature. Le plaisir, déjà. Finalement, la littérature, c'est du plaisir. Et certains jeux, c'est du plaisir. Peut-être un extrait, parce qu'évidemment, on ne va pas se centrer sur un seul aspect. Le livre est tellement riche qu'il part dans plein de directions, même s'il est parfaitement structuré. Mais il y a aussi de l'aventure, bien sûr, plein d'aventures.
Ce fut un moment étrange. Cet instant où je dis au revoir aux gens du bastion de Gunther, non seulement à cause de ce qui venait de se passer, mais aussi parce qu'il venait juste à l'unanimité de déclarer la guerre à mon peuple. Comme je n'avais d'autre choix, je fis contre mauvaise fortune bon cœur. Harald l'imberbe, dont la barbe commençait néanmoins à pointer et qui aurait bientôt besoin d'un nouveau surnom, resterait en tant que meilleur cavalier de Gunther. Cela ne pourrait pas nuire qu'il y eût au moins une personne dans tout le bastion de Selig susceptible de parler de moi en bien. Il y eut donc des embrassades et des larmes. Mes émotions étaient soumises à si rude épreuve que je n'eus pas besoin de feindre pour paraître triste qu'il parte. J'avais du chagrin à revendre. « Si Gunther demande ta main une quatrième fois, murmurai-je à Hedwig, accepte. Il nourrit de tendres sentiments pour toi, malgré ses rodomontades, et vous êtes trop bien accordés tous les deux pour que ça ne marche pas. Et s'il a appris une chose ou deux dans l'art de traiter une femme, allume une bougie Freya à mon nom. Allume une bougie à Freya à mon nom. » J'avais un peu pénétré les mystères du panthéon skaldique, et cette déesse était celle qui me paraissait la plus proche de Naama. Hedwig hocha la tête, puis se détourna en reniflant. Puis Knud me raccompagna saine et sauve jusqu'à la grande salle commune de Selig, en boitant bas des suites de la rossée qui lui avait été administrée pour avoir pris ma défense. Là, il me fit ses adieux, me saisissant la main pour l'embrasser à un moment où personne ne pouvait le voir. Moins soucieuse de discrétion, je pris sa tête entre mes mains pour déposer un baiser sur son front, élevant une prière silencieuse à Elua pour qu'il sortît vivant des batailles à venir. Elua le bénit, comprendrait. Aime comme tu l'entends. Songeais-je en gardant Knud clopiné vers son campement, un sourire radieux sur son visage ingrat. Yeshua ben Yosef, dont le sang avait donné naissance à Lua, avait ordonné à ceux qui le suivaient d'aimer même leurs ennemis. Je compris en cet instant en partie tout au moins, ce qu'il avait voulu dire. Mais je ne pouvais les aimer tous.
La question du pouvoir, vous l'avez déjà abordée au travers du personnage de Phèdre et donc la façon dont elle peut, dans ses rapports privés, même si on sait que c'est une espionne aussi, on le verra très vite, elle écoute quand même ce qui se dit. Mais c'est aussi un personnage qui est au cœur de cette société, qui au départ n'est pas un personnage important socialement, et qui progressivement va jouer un rôle de plus en plus important dans les affrontements politiques, militaires, puisque cette société va être menacée de l'extérieur par l'envahisseur. Mais que ce qui va poser le problème fondamental pour le système de Terre d'Ange, c'est qu'il est aussi corrompu de l'intérieur. Le pouvoir a fini par produire sa propre corruption. Et les comploteurs sont en fait à la recherche du pouvoir, sans en dire trop. Et pour conquérir ce pouvoir, sont presque prêts à s'allier à l'ennemi de l'extérieur. Et c'est vrai que quand on sait que Terre d'Ange est une métaphore de la France, ça nous fait très curieux, parce que ça nous fait penser à notre histoire, où un certain nombre de Français, pendant la Seconde Guerre mondiale, désireux de prendre le pouvoir et leur revanche, n'ont pas hésité à comploter contre leur propre pays et à s'allier avec l'envahisseur nazi. Et chez nous, c'est impossible de ne pas faire ce parallèle quand on lit le début de votre trilogie. Donc, ce que je voulais vous demander, c'est pourquoi là aussi, la question du pouvoir est aussi importante dans votre œuvre, que ça soit dans les rapports privés des personnages entre eux, dans les affrontements entre les responsables des sociétés que vous mettez en scène, et entre les groupes eux-mêmes, les maisons.
As far as the political conflicts go, I wasn't thinking about power as a central element.
En ce qui s'agit des, en ce qui concerne les conflits politiques, je ne pensais pas vraiment au pouvoir comme un élément central.
I would say ambition was the word that was sort of foremost in my thoughts when it comes to, at least to the men who aspire to power.
Dans mon esprit, quand je réfléchissais à ces conflits-là, le mot véritablement qui me venait plus à l'idée, c'était le mot ambition, en particulier concernant l'homme qui aspire au pouvoir.
And I'm not sure there's really a difference except in the way that one thinks about it. Power is the goal, ambition is the drive to achieve it.
Je ne sais pas si finalement il y a véritablement de différence. En fait, ce qui change, c'est la façon dont on le considère. Si le pouvoir est le but, l'ambition est le moteur qui propulse cette envie.
And thinking from a personal point of the characters, I'm focused more on their ambition.
Et puisque je me place plus du point de vue des personnages, ce qui compte pour moi, c'est leur ambition.
And one of the Dangelings desires power. The Skaldi warlord desires power, but also civilization, sophistication.
Il y a un des Dangelins qui désire le pouvoir, un des Skaldiques qui désire le pouvoir, mais il désire également la civilisation et la sophistication qu'il a vu en Terre d'Ange.
But he wants to take a shortcut to get there.
Mais il veut prendre un raccourci pour y arriver.
Rather than doing the hard work of educating his native land, I'll just take this one.
Et plutôt que donc il prend un raccourci plutôt que de faire tout le travail difficile qui va constituer à éduquer son peuple et sa terre. Il se dit plutôt ah bah tiens, ils ont ça à côté, je vais aller le prendre.
And then of course there is another prime mover in the games of political intrigue, Melisandre.
Il y a également un autre joueur de première importance dans le jeu politique, c'est Mélisande.
And although power and ambition are elements that motivate her, I think it's even more complex than that.
Et quant aux éléments de pouvoir, d'ambition qui la motivent, je pense que c'est encore plus complexe que ça.
C'est en effet aussi une des richesses de la trilogie de Cuchiel, c'est la complexité des personnages. Une véritable, et là, bon, j'aime pas le terme personnage de chair et de sang, parce que c'est quand même du papier avant tout, comme le rappelait un des auteurs hier, mais il y a quand même une richesse, une profondeur, une complexité qui nous approche quand même de ce qu'est parfois la vie. Et ça, j'ai trouvé que c'était un des éléments importants. C'est la volonté de complexifier au fur et à mesure, sans que ça paraisse un jeu sophistiqué, la psychologie de vos personnages, et y compris comment leurs actions les amènent à évoluer, y compris parfois contre leur gré.
I think that's a good assessment. Every now and then it can be satisfying to read something cut and dried, black and white, just for the sheer cathartic, you know, cheering on the hero because he's the hero and cheering because the villain was a bad guy. But I think there's a deeper, richer satisfaction in reading something more complex where you find yourself maybe secretly hoping that the villain gets away in the end, even if he doesn't get his way.
Oui, je pense que c'est une bonne description de la chose. Des fois, ça fait du bien de lire quelque chose qui est vraiment très manichéen, très en noir et blanc, juste pour le simple plaisir cathartique de la chose. Le héros, c'est le héros, bah, parce que c'est le héros. Le méchant est très méchant, c'est le méchant. Mais je pense qu'il y a quand même une satisfaction plus profonde qu'on retire quand on lit quelque chose de plus complexe. On peut même se retrouver à espérer secrètement que le méchant s'en tire, même s'il ne parvient pas à ses fins.
Quelque chose aussi qui me paraît un peu surprenant, en tout cas rare, dans la fantasy américaine, même si votre société évidemment est inventée, même si elle ne ressemble en réalité à aucune autre, puisque c'est une fiction, mais quand même, on y reconnaît Terre d'Ange, une sorte de France fantasmée différente de la nôtre, on reconnaît d'autres pays européens, on ne va pas en dire plus pour ne pas révéler la suite du livre, où votre personnage va parfois se déplacer un peu plus loin. Pourquoi une écrivaine américaine a-t-elle eu envie de créer un monde dès sa première trilogie qui ne soit pas dans une sorte de métaphore des États-Unis, mais d'un autre pays et de l'Europe?
Well, the easiest and most obvious answer is I do love writing historical fantasy and the United States just doesn't have that long a history to draw on.
La réponse la plus facile et la plus évidente consiste à dire que bah, j'aime la fantasy historique et que tout simplement les États-Unis n'ont pas l'histoire longue dont on a besoin pour ce genre de choses.
And if you want to draw on a Renaissance sensibility, you really do have to go back to Europe.
Et si on veut créer une sensibilité de type qui rappelle la Renaissance, on est obligé de revenir à l'Europe.
But then also, as I've said before, and I apologize to those for whom this is redundant, but the setting was inspired in part by a trip to France, and particularly the south of France, in which I really fell in love with the landscape, the light, the scents, the whole atmosphere.
Mes excuses si vous étiez déjà là et que vous avez déjà entendu ce que je vais dire. L'univers m'a été grandement inspiré par un voyage en France, dans le sud de la France, où je suis littéralement tombé amoureuse des paysages, des lumières, des parfums, etc.
And also I was playing with the at that time not so well known myth that the descendants of Jesus Christ by way of Mary Magdalene had arrived in the south of France and were part of the Merovingian dynasty, which became very well known when Dan Brown's Da Vinci Code came out.
Et je jouais à l'époque avec des éléments de mythe qui n'étaient pas très connus, le mythe selon lequel il y aurait des descendants de Jésus-Christ par Marie-Madeleine qui seraient arrivés dans le sud de la France et qui auraient même intégré la dynastie mérovingienne, des éléments qui n'étaient pas très connus mais qui maintenant, grâce au Da Vinci Code de Dan Brown, le sont un tout petit peu plus.
So those were reasons both pragmatic, emotional, and creatively to set it here.
Donc c'était pour moi à la fois pragmatique, mais très... C'était pour moi aussi un rapport avec mon émotion de placer ce monde-là dans ce décor.
Et l'amour dans tout ça? Je voudrais dire que c'est aussi une dimension forte, l'émotion entre les personnages. Que ce soit celui de l'amitié, c'est par exemple entre Phèdre et un personnage important, on va approcher avec un autre extrait tout à l'heure, un personnage qui n'est pas, je dirais, de sa catégorie, qui n'est pas de son monde, qui est un personnage issu d'une catégorie un peu réprouvée, un peu mal considérée. Donc l'amitié qui peut transcender des différences. Et puis l'amour aussi, on ne va pas en révéler, parce qu'il faut quand même qu'on ait des surprises, quand, en tout cas vous qui allez découvrir les livres. Il y a quand même Phèdre qui est capable d'éprouver des sentiments amoureux, pas seulement du désir, y compris qu'il va tomber amoureuse, ou plutôt son amoureux au début, va être quelqu'un qui est choqué par sa façon de vivre et par ses goûts, et qui va être très déstabilisé, on va le voir pas mal dans le premier roman, entre autres dans le premier volume. Et puis aussi le rapport extrêmement ambigu, trouble, violent entre Mélisande, donc une des méchantes de l'histoire, on ne dira pas plus, et puis Phèdre. Donc toute cette complexité des rapports humains, où les voies de l'amour et du désir ne sont finalement pas si simples. Et c'est dans la fantaisie, c'est quand même relativement rare. Et dans un premier roman, c'est relativement rare. Ça n'a pas surpris la critique américaine, ou ça a été remarqué lorsque votre premier livre est paru?
I expected a lot more shock from reviewers. I was very pleasantly surprised that I think they understood that this was one aspect of the books and it was integrated well without attempting to be exploitative. So the first book in particular was very well received and I was a little surprised and very happy.
Je m'attendais à beaucoup plus de réactions choquées de la part des critiques. J'ai été agréablement surprise que les critiques ont effectivement compris que c'était un aspect du livre parmi d'autres, qu'il était intégré à l'ensemble, ce que je ne sens et que je ne m'efforçais pas de le surexploiter. Et en fait, le livre a été plutôt très bien reçu et évidemment, j'ai été très agréablement surprise et ça m'a fait très plaisir.
On approche de la fin de ce café littéraire avec Jacqueline Carré et puis on va faire une nouvelle plongée. Vous aurez remarqué qu'on n'a pas choisi les épisodes de bataille, les épisodes d'affrontement, l'épisode de complot. On ne voulait pas non plus trop vous en révéler, mais on peut vous dire que vous ne serez pas privé d'action, de rebondissements, de bataille et de complot et de choses tragiques. Voilà, on ne lâche pas le livre. Un extrait pour montrer qu'il y a des sociétés, des groupes humains différents dans cette société, parfois mal vus. Les Tsingado.
À Lipochan, l'ampleur de la foire des Tsingani me stupéfia. Dès que nous fûmes sortis de Sénessine, le chemin qu'il nous fallait suivre devint de plus en plus évident, alors même que le nombre des routes allait croissant. Tandis que les frimas de l'intersaison hésitante cédaient peu à peu le pas aux promesses du véritable printemps, alors que les bourgeons vert pâle apparaissaient sur les branches, la circulation se densifiait autour de nous. Parmi tous ces gens en errance, nous vîmes des Tsigani en grand nombre. C'étaient les véritables voyageurs, ceux qui ne s'arrêtent jamais sur le long chemin. Une autre foire aux chevaux se tient à Lipochan à la fin de chaque été, lorsque les poulains les plus prometteurs se sont étoffés et peuvent être vendus aux nobles à des prix scandaleusement astronomiques. D'après Hyacinthe, cette autre foire-là est infiniment plus vaste que celle que nous découvrirons, tout comme l'est également la foire qui se tient à Elstett au milieu de l'été. Là, c'était une affaire de Tsingani uniquement. Un moment où il y a des affaires à saisir, des poulains tout neufs dont rien ne dit ce qu'ils promettent, hormis leur lignée et le regard madré des éleveurs. Personne n'a jamais compté les Tsigani en terre d'ange. Cela tient au fait qu'ils sont trop viscéralement nomades pour rester à un endroit et trop suspicieux pour dire d'eux-mêmes combien ils sont. Moi qui les ai vus réunis, je peux affirmer qu'ils sont nombreux, bien plus que nous le supposons. À mesure que nous approchions de Lipochan, nous ne cessions de doubler des caravanes. C'était une chose fascinante de voir le changement qui s'opérait en Hyacinthe. C'était lui qu'ils saluaient, en lançant des phrases de bienvenue dans leur dialecte. Et pourquoi pas, après tout? Il était jeune, hardi et beau garçon, et l'un des leurs. Hyacinthe répondait en criant, agitant son chapeau de velours. Ses yeux noirs brillaient. Leur langue était abondamment métissée de d'angelin, mais je n'en comprenais quasiment pas un traître mot. « Tu ne m'avais pas dit qu'il me faudrait apprendre le tsingano ?» murmura Jocelyn en amenant son cheval à ma hauteur. « Je l'ignorais, » répondis-je chagriné. Même Delaunay, tout érudit qu'il était, n'avait pas su voir que les tsingani avaient leur propre langue. Depuis tout ce temps que je connaissais Hyacinthe, après tous les repas que j'avais partagés avec lui dans la cuisine de sa mère, je n'avais jamais compris ce que cela signifiait pour lui que d'être tsingano. Devant moi, il parlait d'Angelin uniquement. D'un coup, je songeais à toutes les taloches et moqueries qu'il avait dû supporter depuis le premier jour où je l'avais rencontré, lorsque les gardes de la Dowen étaient venus me chercher.
Un dernier mot avant de nous quitter. D'abord, pour vous dire qu'on est tellement content de vous avoir à ces imaginales, et c'est déjà pour prendre date. Je pense qu'il ne faudra pas beaucoup d'années avant que, si vous l'acceptez, vous soyez à nouveau notre invité pour qu'on continue à suivre vos personnages et vos romans. Parce qu'ici, on vous aime déjà beaucoup. Et les lecteurs qui commencent à découvrir en grand format, un peu cher, c'est vrai, vos premiers livres, le découvrent dans une deuxième édition un peu moins chère. Et d'ici un ou deux ans, pour les plus jeunes qui parfois ont du mal à se procurer des livres chers, vous le trouverez en poche. Ça veut dire que le public est en train de se construire et de se développer. La qualité de vos livres nous fait penser que très vite, vous serez, comme aux États-Unis, une auteur majeure en France, que vous êtes sur la qualité de vos textes, mais que vous serez aussi en direction de notre public. En tout cas, on y apportera avec d'autres notre toute petite contribution. Et ce que je voulais aussi vous demander, pour donner envie au public qui est ici, après cette trilogie passionnante déjà de Cuchiel, on retrouve ce monde, mais avec d'autres personnages, je crois que c'est 200 ans plus tard, je n'ai pas encore lu les livres, parce qu'ils n'ont pas, je ne lis pas suffisamment bien l'anglais. Pourquoi vous n'avez pas fait, comme certains de vos collègues, une suite, 20 volumes? Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a suivi Phèdre sur cette trilogie, on aurait presque aimé continuer avec elle. C'est quand même un personnage tellement passionnant et un monde tellement fascinant.
I've actually been thinking about that question a lot lately.
Je me suis posé la même question et j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps.
I truly believe there is a natural dramatic arc to most stories.
Je pense qu'il y a un arc dramatique un peu naturel inhérent à toutes les histoires.
And no matter how well loved the characters, once that arc is finished, the story will never be as good.
Et quel que soit l'amour qu'on a pour les personnages, une fois que cet arc est terminé, après, si on continue, l'histoire ne pourra jamais être aussi bonne.
You can keep mining that vein, and readers will keep devouring the books, complaining that they're thinner and thinner in substance.
On peut continuer à miner sur le même filon, et les lecteurs continueront à dévorer les livres tout en se plaignant qu'ils deviennent de plus en plus minces et de plus en plus pauvres en substance.
And that can be a very commercially successful route for many writers. But you can feel when an author is writing without joy anymore, without passion.
Ça peut être une stratégie très commercialement qui peut fonctionner très bien pour beaucoup d'auteurs, mais je pense qu'on sent quand l'auteur n'écrit plus avec la même joie, avec la passion.
And I don't want to write books without heart and passion in them. I don't want to write books that I know are pale shadows of the books I wrote before.
Et je ne veux pas écrire sans éprouver cette passion, je ne veux pas écrire sans le cœur, je ne veux pas écrire des livres dont je saurais pertinemment que ce sont des pâles ombres des précédents.
So I would rather let loved characters pass gracefully into legend. And if there's a sense that there's still gold there to be mined, fine. It makes what's already been excavated all the richer.
Et je préfère laisser des personnages aimés et appréciés passer dans la légende de façon gracieuse. Et si on a l'impression qu'il reste encore de l'or à miner sur ce filon, eh bien, peut-être que cela rend justement ce qui a déjà été creusé et excavé plus riche.
Je crois que c'est une jolie conclusion. En tout cas, on va suivre Jacqueline Carré et vos prochains livres avec autant de passion qu'on a lu les trois premiers. Et puis ceux dans la salle qui n'ont pas encore lu la trilogie de Cuchiel, dépêchez-vous parce que vous allez passer des moments merveilleux. Merci d'être venu à nos Imaginales.